Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
Bonjour, je m'appelle Pixel Art et je bois de l'eau minérale.
No comment. De Dwayne.
Hello.
Et d'ATH.
Salut à tous, et je voulais juste remercier Pixel pour l'interview qu'il a fait la semaine dernière. Et j'étais content d'apprendre quelques anecdotes assez sympathiques.
Voilà.
Et bah quand même, hein, ça aura valu le coup que je me déplace.
Bon, allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera du procès entre ZeniMax et Oculus. On enchaînera ensuite sur River City Ransom Underground. On vous parlera également du portage PC de Little King Story. On évoquera l'amour des fans pour les licences Capcom, n'est-ce pas? Notamment Resident Evil 4 et Megaman. Nous évoquerons Nintendo qui se porte très bien, merci. On enchaînera sur G2A, le fameux site de clé qui a fait une séance de questions-réponses sur Reddit qui s'est pas très très bien passée. Et enfin, pour terminer, nous vous parlerons du décès de la franchise Deus Ex. Voilà. Et donc, on commence cette semaine d'actualité avec l'Oculus, mon cher Dwayne.
Tout à fait. Donc, procès entre Oculus et ZeniMax, maison mère de Bethesda, Arcade, id Software. C'est un procès qui dure depuis 2014. C'était pour vol de propriété intellectuelle à la base. Donc, il y a enfin eu un verdict avec 500 millions. Donc, non pas pour vol de propriété intellectuelle, mais pour violation de NDA.
C'est une semi-victoire, en fait.
Enfin, c'est surtout une victoire, du coup, pour Facebook. Et puis, à côté, ça fait un peu de cash pour ZeniMax. Sachant que ça a été mis en place. Enfin, c'est un procès qui a été lancé en mai 2014, juste après le rachat de Facebook, sachant que John Carmack, lui, il était parti depuis mi-2013 à peu près.
Et pas mal Luquet qui a pris cher aussi. On rappelle quand même que c'est Luquet qui est techniquement le créateur d'Oculus.
Effectivement, ben du coup les 500 millions, il y a une partie, alors c'est 300 millions pour la société Oculus, 150 pour un des fondateurs d'Oculus et 50 millions pour Palmer Luckey.
Bon, voilà, une histoire de gros sous, tout ça, tout ça. Je pense qu'ils doivent être déçus chez ZeniMax parce qu'ils demandaient quelques milliards à la base.
Ils demandaient effectivement 6 milliards à la base, mais bon, vu que rien de ce qu'ils ont demandé à la base n'a été prouvé, c'est-à-dire qu'ils disaient en gros que c'est chez eux que tout a été créé alors que Palmer Luckey travaille sur tout ça depuis 2009, il a publié des articles sur le web, donc il y a aucune véracité à ce qu'il racontait, mais ils ont réussi à prendre 500 millions, donc ça reste quand même... je pense une victoire, vu qu'ils ont pu prendre un peu de cash à Facebook.
Enfin, ils ont réussi, leur appel normalement, donc voilà.
Voilà.
Ok, on va enchaîner donc sur un nouveau jeu, mon cher Pixel, enfin un nouveau. Ça s'appelle River City Ransom Underground, et pour ceux qui connaissent pas donc, River City c'était un beat'em all old school, n'est-ce pas, à l'ancienne, qui a marqué à l'époque de la NES, et donc là il y a une suite qui débarque.
Ouais, il y a une suite qui débarque et en fait, Kunio-kun, bah, c'était un jeu de baston à progression en 2D, progression horizontale, qui était sorti au Japon sur la Famicom dans les années 80, où on incarnait une bande de voyous japonais qui tapaient sur tout le monde. Et aux États-Unis, c'était sorti sous le nom de River City Ransom. Et là, bah, on a une suite, remake, appelez ça reboot, ou appelez ça comme vous voulez, en 2D, toujours, en HD cette fois-ci. Et il y a une vidéo qui est sortie. Le jeu sort sur PC en version dématérialisée. Je vous conseille d'aller vivement la voir parce que elle est vraiment hallucinante. Surtout au niveau des animations qui enterre carrément, j'ai envie de dire, n'importe quel jeu de baston à progression en 2D de l'époque et même encore aujourd'hui, et avec beaucoup de personnages à l'écran, beaucoup de personnages incarnables, beaucoup de prises spéciales, on peut y jouer à plusieurs et ça s'annonce vraiment fun.
Donc, sortie prévue sur Mac, Linux, PC, voilà, voilà. Je précise, c'est du pixel art, hein, parce que ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que ils ont gardé un look rétro, mais avec des animations d'aujourd'hui. Parce que les sprites sont totalement hallucinants, hein, même sur une Mega Drive, je pense pas que ça aurait tourné ce genre de truc. Et je sais que la Mega Drive était douée pour faire afficher des sprites un peu tarés. Bref, un jeu que je surveillerai, parce que un bon petit beat'em all avec des animations de tarés, bah, écoute, ça fait toujours plaisir.
Surtout que la licence, c'est une des premières du genre, donc c'est un truc quand même assez historique dans le monde du beat'em up. Aujourd'hui, il y a beaucoup de séries qui reviennent sur le devant de la scène. Par exemple, là, on a vu qu'il y avait un nouveau Double Dragon 4 qui est arrivé.
Bah, par contre, qui a l'air totalement naze. Hein.
Ouais, mais tu vois, quoi, je veux dire, il y a un Double Dragon 4 qui va sortir, alors que c'est bizarre, sur Super NES, il y a Double Dragon 5. Mais en tout cas, la série River City Ransom au Japon, c'est la série des Kunio-kun. Et ces personnages-là, on les a déjà retrouvés dans, bah, par exemple, dans des jeux de foot. C'était des personnages qui étaient utilisés dans plusieurs jeux, ouais. Des jeux de sport, etc.
Un bon moyen d'économiser le fait de refaire des sprites, tout ça.
Ouais, surtout, enfin, surtout que moi, j'ai trouvé ça assez marrant parce que c'est des sprites dessinés grossièrement, en fait. Et c'est un beat'em all, mais il y a des notions de RPG dedans. Où tu peux gérer par exemple ton argent, c'est parce que quand tu tapes des loubards, il y a des pièces qui tombent de leur poche et après tu peux acheter des objets pour regagner la santé ou bien acheter des nouvelles armes, etc. Et du coup, moi je trouve ça sympa, cette suite entre guillemets qui va arriver. Mais par contre, le côté où les personnages font des shuriken en utilisant des pouvoirs, je suis un peu sceptique là-dessus. Mais bon, je pense que ça peut le faire, mais c'est super sympa et dommage qu'il n'y a pas de version Vita, quoi. Du moins une version portable. Après, je m'en fous que ça tourne sur Vita ou sur 3DS, mais j'aurais bien aimé avoir une version qui tourne sur une console nomade, quoi.
Donc, rendez-vous est pris le 27 février. On enchaîne sur un portage. Un portage qui avait été raté, c'était celui de Little King Story. Je crois que j'en avais parlé sur ce même podcast. Il faut savoir que le portage de Little King Story avait quelques petits soucis. Notamment le fait qu'ils avaient mis un mode 60 FPS et que, en fait, si tu veux, c'est un jeu qui était codé à la japonaise. C'est-à-dire que la vitesse d'animation est capée sur le framerate. Donc, quand tu augmentes le framerate, ben, ça augmente la vitesse d'animation, tout simplement.
Comme voilà. Tu veux dire un certain Dark Souls où quand tu montais la vitesse, enfin ils avaient mis la version 60 FPS sur PC et en fait les armes cassaient deux fois plus vite.
Voilà, c'est ça. Non mais c'est exactement ça. Il y avait pas que ça d'ailleurs, il y avait plein de petits bugs. Bref, le portage était assez surpourri en fait, pour être très honnête avec vous. Et il se trouve que Xid est allé chercher un certain Durant. ATH, tu parlais de Dark Souls tout à l'heure. Bah, justement, c'est ce monsieur qui avait réparé Dark Souls à l'époque.
Ouais.
Et donc, ils sont allés le chercher. Ils lui ont dit, s'il te plaît, tu pourrais regarder un peu le merdier, là, parce que bon, les gens, ils sont pas très contents avec notre portage, donc ça serait cool si tu pouvais essayer de le réparer un peu. Donc, Durant s'est penché sur la question. Il en a profité pour sortir un patch. Donc, patch qui est sorti, il me semble, aujourd'hui. Et le patch est, ma foi, plutôt réussi, il corrige pas mal de problèmes, notamment en termes d'animation. Le jeu tourne maintenant à 60 FPS sans que la vitesse d'animation soit augmentée, quoi. Et il a corrigé pas mal de bugs, tout ça. Il y a aussi un truc que j'apprécie, c'est que le Little King Story original, il gérait, tu sais, que 8 directions sur le stick analogique, si tu veux. Et là, en fait, il a reprogrammé le jeu pour que ça marche comme un jeu normal.
C'est-à-dire 360 degrés, quoi. T'as vraiment toutes les, voilà. les nuances. Mais enfin, moi, je trouve ça quand même assez marrant qu'un mec tout seul puisse arriver à gérer un patch comme ça qui corrige le bug, alors que normalement, c'est une grosse société quand même qu'il y a derrière.
Non, Xid, c'est pas une grosse société.
Ouais, mais c'est quand même une entreprise qui fait du jeu vidéo.
Non, mais c'est cette même entreprise qui est venue le chercher. Ils l'ont payé pour ça, hein, c'est pas genre... Donc ça veut dire qu'ils ont quand même, justement, ils ont mis les moyens, tu vois, pour que le jeu soit réparé. Et j'attire votre attention sur un article que je mettrai en lien, où justement, Durant explique en long, en large et en travers les difficultés de ce portage, et il explique pourquoi le portage avait quelques soucis à la release. En fait, Little King Story, c'est un jeu qui a été conçu pour la Wii, en fait. Et quand ils ont fait ce jeu, ils ne se sont pas souciés du fait qu'on puisse le porter plus tard ou ce genre de choses, tu vois. C'est-à-dire que le code est vraiment dégueulasse, pour faire simple. Et que pour faire un portage, c'est extrêmement compliqué, en fait. Ça explique en partie les problèmes qu'il y a eu à la release, même si j'arguerais quand même que ils sont quand même bien rendus compte des problèmes qu'il y avait et qu'ils auraient pu venir le chercher plus tôt. Voilà. Dans tous les cas, je suis assez content ayant acheté le jeu qui soit enfin patché, parce que moi, cette histoire de 60 FPS, ça me cassait pas mal les couilles, sachant qu'en plus, il y avait pas mal de bugs, tout ça. Donc, que tout ça soit corrigé, ma foi, je suis assez content, sachant qu'il reste quand même quelques petits défauts, notamment le fait que le mode 60 FPS, malheureusement, on va dire que certains événements dans les combats contre les boss sont triggés en fonction du moment où certaines animations sont déclenchées, etc. Pour pouvoir corriger ça, il aurait besoin de certaines informations qu'il peut pas obtenir avec le code original. En gros, il faudrait un travail monstrueux pour corriger ça. Donc le seul moyen qu'il a trouvé pour corriger ça, c'est de mettre un bouton qui permette de switcher en 30 FPS momentanément pour passer certaines phases de boss, quoi.
Ouais, c'est ce qui était super intéressant dans l'article. C'est-à-dire, moi, c'est pas un jeu qui m'intéresse particulièrement, mais c'est l'article est vraiment intéressant dans le sens où il explique vraiment de A à Z. En fait, on regarde un épisode de Doctor House version jeu vidéo. Ça montre bien parfois la complexité de certains portages ou de certaines choses à faire, sachant que justement, il dit exactement que c'était pas juste un simple portage, mais il y a vraiment des choses qui ont été refaites, mais que vu que c'est une architecture vraiment différente, c'est vraiment beaucoup plus complexe que de faire un simple portage, c'est pas juste appuyer sur un bouton, quoi. Donc c'était vraiment intéressant de voir l'article.
Voilà. Encore une fois, je vous mettrai le lien, c'est un article très intéressant à lire. Sachant qu'il précise bien également que la plupart du temps, les portages sont quand même faits à l'arrache. Hein. Voilà.
Effectivement.
Bon, ATH, on va passer maintenant à la séance Capcom.
Ouais.
Capcom, donc, qui a droit à beaucoup d'amour de la part de ses fans. Enfin, disons qu'en tout cas, certaines franchises de Capcom sont très appréciées par les fans. Et il y en a notamment deux dont on va parler aujourd'hui. Et la première, c'est Resident Evil 4.
Voilà, alors Resident Evil 4, HD Project, c'est un fan mode qui permet en fait d'augmenter la résolution des textures par rapport au jeu original qui était sorti à la base sur GameCube à 16 fois l'original. Si vous vous souvenez bien, par exemple, tout ce qui était mur, porte, c'était un peu cracra, même dans les remasters HD que vous avez aujourd'hui, ça n'a pas été travaillé, ça a été juste lissé, mais c'est pas fou non plus. Et là donc ce projet là en fait permet d'avoir enfin des textures dignes de ce nom, c'est-à-dire on a enlevé l'aspect qui était pixelisé et un peu flou et un peu dégueulasse. Tout ce qui est modèle 3D a été refait et aussi les lumières. Et donc ça permet de redécouvrir entre guillemets un excellent jeu comme Resident Evil 4 avec des graphismes pas remis au goût du jour parce que c'était pas la volonté en fait de l'équipe qui a travaillé sur le projet, c'est pas de faire un truc vachement beau comme on peut voir par exemple un Resident Evil 4 sur
c'est pas un remake.
Voilà, c'est ça. Ils ont pas voulu dénaturer en fait ce qui a été fait par l'équipe de Capcom original. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu plus lisse, un peu plus beau.
Bah l'objectif clairement c'est de faire un Resident Evil 4 qui soit pas dégueulasse sur nos résolutions d'aujourd'hui quoi.
Voilà, exactement, c'est ça.
Voilà, franchement, moi, je sais le travail. Alors, attention, hein, je précise, le travail n'est pas terminé. Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que ils ont sorti toute la partie qui concerne le château. Donc, lentement, mais sûrement, ils approchent de la fin, mais il y a encore du travail. Et on vous en reparlera assurément quand ce sera terminé. Mais, dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut saluer le taf, qui est juste énorme, quoi. Et qui, en plus, à mon avis, rend un énorme service à Capcom, parce que, pour le coup, le jour où ils ressortent la version complète, je pense qu'il y a des ventes qui vont augmenter, et Capcom, ils vont pas trop comprendre d'où ça vient, en fait.
Mais aussi, il faut savoir que tu parlais de certains fans qui ont un amour immense pour des séries de Capcom mythiques. Il y a aussi un patch qui a été fait sur la version de Resident Evil Rebirth qui permet en fait de pouvoir y jouer au casque VR. Et je voulais aussi saluer l'équipe de développement qui a fait ça. C'est un patch assez récent qui vient juste de sortir. Il est encore en bêta pour l'instant, donc voilà, à voir si ça sort, ça serait sympa de pouvoir essayer ça.
Dans tous les cas, moi, le jour où ça sort, je pense que je me refais Resident Evil 4 parce que c'est un opus avec lequel j'ai une relation assez conflictuelle, on va dire.
C'est le début un peu de la chute de Capcom.
Non, mais disons que je reconnais ce qu'il a apporté aux jeux vidéo en général. C'est clairement lui qui a posé des bases du TPS. Enfin, voilà. Il a apporté plein de choses qu'on a retrouvées dans d'autres jeux par la suite. Ouais. Mais par contre, pour moi, c'est l'épisode qui a complètement dénaturé la série. Et enfin, voilà. C'est pour ça que j'ai une relation assez...
Bah, en fait, c'est l'épisode qui a pris le virage totalement action assumé. Et après, au début, quand le 4 était sorti, à l'époque, c'était comme une révolution et ça a mis une claque à tout le monde. Et ce qui est logique, parce que vraiment, le jeu est excellent. Mais après, quand on a vu Resident Evil 5, qui est limite un copier-coller juste avec un mode coop, il y a moins de travail sur l'ambiance, on peut se dire d'accord, bon. Et puis après, quand on a vu ce que ça donnait Resident Evil 6, enfin pour moi, tu vois, Resident Evil, il y a trois Resident Evil qui sont vraiment importants. C'est le Resident Evil 1, Resident Evil 4 et le Code Veronica. Et pour moi... Le fait que c'est pris un virage action, si tu veux, c'était cool pour l'époque, mais après ça a donné deux monstres, le 5 et le 6, et c'est ça qui est un peu dommage, quoi.
Bah disons que Code Veronica sublimait la formule de base, ouais, je trouvais.
Bah surtout le scénario quoi en fait.
Et Resident Evil 4 ouvrait de nouveaux horizons. Bon, malheureusement, c'est pas parti tout à fait dans la direction dans laquelle voilà, on pensait.
Enfin, le 4, ça a apporté pas mal de choses qu'on a retrouvées sur les TPS de la PS3 et de la 360. Mais si tu veux, quand tu jouais à Resident Evil 4, t'avais toujours un peu cet aspect rigide encore dans le déplacement de Leon Kennedy. Et donc du coup, ça a contribué à l'ambiance. Le 6, ils ont corrigé ce problème-là, mais on avait perdu tout ce qui faisait le sel de Resident Evil 4, en fait. Il y avait plus du tout cette même ambiance, c'était un jeu qui était mal foutu, que ça soit l'histoire, l'aspect gameplay, TPS, enfin, tout était raté vraiment, et je suis content vraiment que, le 7, ils ont pris un autre virage que continuer là-dessus, quoi, en fait.
Le 7, dont on parlera très bientôt, voilà.
Petit teaser.
On va maintenant enchaîné sur une autre franchise Capcom, Megaman, Dwayne.
Tout à fait, donc Megaman 2.5D, sur lequel un certain Peter Strodant, enfin je n'arrive pas à prononcer son nom, travaille depuis 8 ans. C'est pas juste un remake de Megaman 2, va y avoir donc au programme nouveau stage, nouveau boss, un mode versus, la possibilité de sauvegarder, du coop de joueurs avec donc du coup Megaman et Protoman. Et donc Protoman qu'on pourrait également jouer en solo. Donc tout ça avec un habillage assez classe. Donc c'est dispo.
C'est
quoi.
Mi nouveau, mi rétro, on va dire.
C'est ça, exactement.
J'ai envie de dire que le titre est très bien choisi, hein, 2,5D.
Exactement.
Voilà, c'est-à-dire que t'as le style rétro de Mega Man 2, mais dans un environnement en semi 3D. Enfin, c'est super classe.
Ouais. Et aussi l'aspect, l'espèce d'animé qui est fait dans la présentation de la vidéo. Je trouve ça quand même assez bluffant ce qu'ils arrivent à faire. Mmh. Et surtout, en fait, le 2,5D porte bien son nom parce que t'as des niveaux vraiment où tu sens que le truc a été utilisé et c'est pas une feature qui a été mise comme ça juste
pour faire joli.
Voilà, et en fait, tu vois vraiment le changement de perspective qui sert à quelque chose. Notamment au bout d'un moment où il continue à avancer par exemple sur une corniche et après le changement de perspective lui permet d'atteindre une autre corniche et que t'aurais pas vu si tu serais resté dans l'aspect 2D en fait.
Donc voilà, ils ont vraiment retravaillé certains niveaux et tout, il y a vraiment un taf énorme qui a été fait là-dessus. Donc bon, alors mon seul reproche c'est la musique, les mecs, non. Je suis désolé, mais là, enfin je trouve ça c'est très subjectif, hein, mais j'accroche pas du tout.
Pourquoi il a pas gardé les mêmes musiques que Megaman 2 ?
C'est la même musique, mais refaite avec des nouveaux instruments et disons que j'accroche pas du tout à la réorchestration qu'ils ont faite, un peu de techno, tout ça. Enfin,
ah oui, effectivement, je suis en train de l'écouter là. C'est vrai que je préfère l'original, le 8 bits, quoi.
Il y a des jeux qui arrivent à remixer des musiques d'antan, etc. Mais disons que quand j'écoutais ça, c'est pas les sonorités que je m'imaginais en remixer. Enfin bref. Bon, allez, c'en est terminé. Je précise que évidemment, je mettrai le lien pour télécharger tout ça sur la description du podcast. On va maintenant enchaîner sur Nintendo. Je précise que cette actualité nous vient des forums Canard PC, n'est-ce pas ? Notamment un post d'un certain Clear Strelok qui a résumé tout un tas de tweets qu'a posté Oscar Le Maire sur Twitter où il y a plein d'infos, enfin en gros il y a une compilation d'infos là-dedans qui sont très intéressantes et on va parler notamment de la santé financière de Nintendo. Alors on pourrait se dire avec l'année catastrophique qu'a passé la Wii U et avec le fait notamment que la 3DS, bon, certes, elle est encore en vie, mais elle est quand même en fin de vie, elle est moins dynamique qu'auparavant. Sauf que non, en fait. Pourquoi ? Parce que, Pokémon. Voilà. C'est-à-dire que, alors, je vous mettrai un lien, encore une fois, vers le post sur le forum de Canard PC qui récapitule tout ça. Mais, en gros, Pokémon a sauvé la Nintendo, mais même plus que ça, c'est une bonne année pour Nintendo, hein. C'est-à-dire qu'il y a notamment un graphique qui compare depuis 1980, je crois, 1985, tous les bénéfices par année. Et cette année, ma foi, c'est une bonne année. Bon, alors, on n'est pas dans les sommets qu'a pu atteindre Nintendo avec la Wii, notamment. Mais quand même, le bénéfice de cette année est pas dégueulasse, et ça, c'est grâce à Pokémon. C'est-à-dire que, en gros, on apprend que Pokémon Go a rapporté 150 millions de dollars à Nintendo, rien qu'en royalties. Et qu'en plus, derrière, Pokémon Sun and Moon a fait des records de vente absolument hallucinants. Il y a un graphique fait par Oscar Le Maire qui montre la courbe de Pokémon X et Y et celle de Pokémon Sun and Moon. Et genre, Pokémon Sun and Moon, en un mois, il va faire quasiment tout ce qu'a fait Pokémon X et Y depuis qu'il est sorti. Voilà. Nintendo, ça va très bien. Bon, alors maintenant, se pose une question, hein. Est-ce que la dépendance de Nintendo par rapport à Pokémon n'est pas un peu dangereuse? Voilà, voilà.
Mais on parle de Sun and Moon, qui fait des très bonnes ventes, mais quand je vois par exemple le comparatif avec Pokémon version rouge, bleu et vert, ils sont quand même encore assez loin, tu vois. C'est quand même assez ouf que la première génération de Pokémon, en fait, soit autant vendue que ça. Alors c'est, tu vois, pour un premier jeu, en général, les séries, ils atteignent leur pic au troisième jeu d'une saga. Là, Pokémon, vraiment, la première version de Pokémon qui est sortie, c'était un carton monumental, et là je viens de me rendre compte en regardant le graphique encore que le succès, tout l'abattage médiatique qui a été fait à l'époque, en fait c'était mérité pour Nintendo, quoi, enfin pour le Game Freak et Pokémon, quoi.
Après tout ce qui entoure Pokémon, bah c'est assez intéressant au niveau financier. On voit effectivement que Nintendo peut quand même se guerrieriser auprès des investisseurs, etc. Mais après, faut pas oublier que derrière, il faut quand même qu'ils fassent tourner. Enfin, il y a pas que My Pokémon Company. Il faut aussi qu'ils fassent tourner d'autres secteurs, qu'ils vendent un peu. Bon, après, il y a effectivement le fait que Pokémon, bah justement, permet de vendre des Nintendo, enfin des 3DS, etc. Et que ça apporte également à la société. Mais derrière,
il faut surtout pas oublier que Pokémon Go, c'est une anomalie, hein. Enfin, voilà, c'est pas demain après... la veille que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi aussi j'ai dit que... Est-ce que Nintendo est pas un peu trop dépendant de Pokémon, là, pour le moment? C'est pas demain la veille qu'ils vont réussir à reproduire le succès de Pokémon Go et de surfer là-dessus, tu vois?
Clairement.
Pour refaire autant de pognon qu'ils ont fait là. Donc, il faut vraiment... qui soit plus rentable sur leurs autres franchises, quoi, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire.
Ah oui, clairement.
C'est-à-dire que là, Pokémon, alors certes, il aura sauvé l'année, là, complètement, mais l'année prochaine, ça sera peut-être pas la même, tu vois.
Ouais, c'est ça, ça ramène de la thune, niveau R&D, on peut continuer à bosser et tout, mais effectivement, il faut qu'au niveau de la Switch, des différents jeux, après, effectivement, il parle du fait que ce qu'on disait par rapport à la Switch, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeux, etc., que c'est volontaire et que c'est pour étaler le catalogue et tout ça, mais il y a une seule possibilité de faire une première impression, quoi. Et donc là, s'ils arrivent qu'il n'y a aucun jeu, bon, les éditeurs tiers, comme d'habitude, ils vont partir, ça ne va pas changer à ce niveau. Et là, s'ils vendent pas dès le départ des Switch et qu'ils attendent Noël, effectivement, ça va pouvoir booster un peu, mais commencer très bas avec aucun jeu, ça va être très très compromettant pour la suite, même si la Switch est pas le dernier espoir, hein, c'est-à-dire que là ils continuent à bosser, même si la Switch fonctionne pas, ils pourront continuer parce qu'ils ont quand même les fonds nécessaires avec le trésor de guerre qui se sont fait sur la Wii, mais faut quand même faire attention.
Ouais, parce que là ce qu'on voit clairement, c'est que ils ont eu 2 années à vide un peu là. Avant 2016, mais avant ça, t'avais les retombées de la Wii qui étaient absolument monumentales.
Exactement.
Et que là, ils s'en sortent. Donc Nintendo va mourir, c'est pas pour demain, en tout cas.
Clairement.
Voilà, c'est Nintendo pour le moment, ça va bien. Voilà, merci. juste au passage, je tenais à réagir avec news dont on n'avait pas prévu de parler, mais je me dis qu'après tout, autant glisser maintenant. Je m'étonne qu'on dise, Super Mario Run, il ne s'est vendu qu'à 4 millions d'exemplaires. Écoutez, franchement, vu toutes les casseroles que le machin il s'est traîné, moi je trouve ça très bien en fait.
Et moi, 40 millions, je dis pas non.
Non,
hein,
mais parce que quand même,
prends...
ils ont vendu le machin à 10 balles. Il y a une connexion permanente dessus. Moi, franchement, 4 millions d'exemplaires pour un jeu vite fait, tu vois. Alors certes, c'est Super Mario, on pourrait peut-être s'attendre à plus, je dis pas, mais en même temps, de toute manière, ça fait toujours des gens qui ont téléchargé le jeu gratuitement et ça augmente l'aura de Mario en quelque sorte, quoi, tu vois. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que on a appris récemment que le trailer du dernier Mario, c'est le trailer qui a eu le plus de vues chez Nintendo. Mais depuis qu'ils font des vidéos sur YouTube, etc., quoi. Donc, peut-être que ça a une influence aussi, etc. Donc, bon, voilà, moi, je pense que Nintendo, dans tous les cas, ils ont fait une très bonne opération.
Bah, clairement. Surtout que Mario, enfin, Mario, c'est une licence super connue. Enfin, même ma grand-mère connaît Mario. Tu vois, Mario, je pense que c'est une licence. Bon, ça a été vendu 4 millions de fois. Est-ce que c'est peu, c'est pas beaucoup? Moi, j'en sais rien. Moi, pour moi, 4 millions, c'est pas mal.
Il faut aussi, faut aussi pas oublier qu'il est pas encore sorti sur Android en plus.
Ouais, et en plus de ça, surtout le fait que le jeu a téléchargé quand même 40 millions de fois. Donc, je sais pas si il y a de la publicité ou pas sur l'application Super Mario Run. Mais en tout cas, ça fait de la publicité toujours pour Nintendo, quoi. Donc, Nintendo pourrait très bien utiliser leur application qui mettent à disposition gratuitement. Par exemple, ils mettent une nouvelle, par exemple, Pokémon version Go 2.0. Bah, pourquoi ils ne mettraient pas, par exemple, quand tu lances l'application, une image, par exemple, du nouveau jeu qui va sortir, par exemple, Splatoon sort le mois prochain. Bah, pendant un mois, on va te mettre du Splatoon, à chaque fois que tu lances ton application, il y aura, et oui, n'oubliez pas que sur la Nintendo Switch, Splatoon 2 va sortir bientôt. Tu vois, ça serait un moyen de communication, mais hyper efficace pour toucher un maximum de personnes.
Bon, alors ça, par contre, il faudrait que Game Freak que la Pokémon Company soit d'accord, mais c'est une négociation, tout
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils, tu vois, Nintendo, ils peuvent, ou bien pas forcément sur Pokémon, mais par exemple sur les licences qui leur appartiennent à 100%, par exemple Mario, ils pourraient très bien le faire.
Ouais. Oui. Non, mais de toute façon, moi, je pense qu'ils ont totalement raison sur leur stratégie mobile.
Ça fait toujours de la publicité. Bref. En fait. C'est ça. C'est de la publicité, pas, je pense pas que ça peut leur faire de la mauvaise pub. À part s'ils font vraiment de la merde dessus, mais pour l'instant, les jeux qui sont sortis, c'est pas trop mauvais non plus. Et surtout, on voit bien que Nintendo va foncer sur le marché du mobile avec, notamment, Animal Crossing et Fire Emblem. Et, ça, c'est des publicités c'est des licences qui leur appartiennent, et je vois pas pourquoi ils mettraient pas des nouvelles licences, par exemple, le Zelda qui va sortir le mois prochain, ils te mettent la pub sur Animal Crossing et en même temps sur Fire Emblem, et je pense que ça peut être que gagnant-gagnant, en fait.
Ouais, ça fait de la publicité pas chère, et en plus, pour peu que les gens achètent et, enfin, payent les jeux derrière, voilà, quoi. Bon, allez, on va enchaîner sur G2A, n'est-ce pas? Alors, G2A, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un revendeur de clés sur PC, notamment. Mais je crois qu'ils revendent des clés de jeux console aussi, hein, il me semble. Ce revendeur de clés, on va dire qu'ils ont un peu une réputation de merde, hein, on ne peut pas se le cacher. Notamment parce que la plupart des revendeurs de clés, alors attention, pas tous, hein, il y a des revendeurs de clés officiels qui font un travail très honnête, mais il y a des soucis sur les clés parce que, notamment, par exemple, ça arrive qu'il y ait des clés qui soient des clés qui ont été récupérées avec des cartes bleues volées, par exemple, tu vois. Ou, par exemple, des clés qui proviennent de lots qui ont été envoyés à des youtubeurs, tu vois, ou ce genre de choses, et qui se retrouvent mystérieusement sur des sites de clés à pas cher. Donc, G2A, pour redorer son blason, n'est-ce pas, a décidé de tenir une séance de questions-réponses sur Reddit. Ça arrive régulièrement dans l'industrie, ce genre de choses, notamment il y a Ganuel qui l'a fait récemment, Reddit est assez connu pour ça, et l'idée c'est que vraiment, opération transparence, vous nous posez les questions que vous voulez, on répond, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, il se trouve qu'à un moment donné, dans leur session de questions-réponses, il y a quelqu'un qui leur a demandé s'ils faisaient correctement leur taf pour contrôler d'où provenaient les clés. Ce à quoi ils ont répondu que oui, mais bien sûr, on fait très bien notre taf, y a pas de problème, toutes les clés sont vérifiées, blablabla. Manque de bol pour eux. Manque de bol pour eux. Il y a un gars qui est venu les voir, qui leur a dit nope. Et ce gars, c'est quelqu'un en gros qui leur revend des clés, parce qu'il faut savoir que n'importe qui peut revendre des clés à G2A. Il suffit d'avoir un compte chez eux, d'avoir normalement une preuve d'achat, et c'est bon, tu revends la clé. Et il leur a prouvé par A plus B que, ils vérifiaient pas les clés puisqu'elles étaient mises dans la minute en ligne. Donc, en une minute, tu peux pas vérifier les clés, c'est pas possible. Surtout qu'il avait mis des fausses preuves d'achat, etc. Il a fait exprès de mettre des fausses preuves d'achat pour montrer que, il racontait que de la merde, quoi. Et, il a démontré par A plus B que c'était faux. Réaction de G2A, ils ont bloqué le compte du gars. Ils ont bloqué le compte du gars, c'est-à-dire que le gars ne peut plus récupérer ses clés, il peut plus récupérer les gains qu'il a eu sur G2A, et ils ont complètement bloqué son compte, et résultat des courses, G2A s'est fait une publicité de merde. Alors pourquoi j'ai voulu parler de cette news cette semaine, c'était pour dire encore une fois, il vaut mieux pirater un jeu que d'acheter ces jeux sur des sites comme G2A. Alors, il y a certains sites de clés qui sont des sites de clés officiels, qui font les choses de manière réglo, mais G2A, je suis désolé, les sites de merde comme celui-là, il ne faut surtout pas acheter chez eux. La preuve. Voilà.
Voilà. Non, mais clairement, ouais, c'est ça, c'est un gros problème, effectivement, à ce niveau, c'est toujours faire attention. Et puis, pour la petite shitstorm, là, c'est un peu, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ça montre encore une fois qu'il y a des amateurs qui sont aux commandes, parce que, je veux dire, tu fais un Reddit, un Ask Me Anything, le mec, il ramène ça, tu bloques son compte, tu te rends compte s'il est déjà venu et qu'il a montré toutes les preuves, bah il va encore revenir pour également te faire une pub de merde si tu bloques son compte. Donc ça me paraît assez ridicule comme situation, et puis ça montre que c'est un site de merde, voilà.
Mais de toute façon, tout a été dit, enfin les posts ont prouvé que c'était pas sérieux. Ils ont pris la main dans le sac, et pour eux, enfin voilà, tout est normal, et je sais même pas comment dire, enfin, pour moi c'est des escrocs, et puis voilà quoi, pour rester poli, je veux pas aller plus loin, mais voilà.
Y a rien de mal hein, à vouloir acheter ces jeux pas chers, mais de préférence, acheter sur les sites de clés qui sont réglo, parce qu'il y en a, hein, donc tant qu'à faire, ou alors pirater les jeux, hein, moi encore une fois, j'ai aucune hostilité de principe personnellement au piratage, juste quand vous aimez bien un jeu, achetez-le quoi derrière. Voilà. Bon, allez, on va terminer cette semaine d'actualité avec Deus Ex. Deus Ex qui va finir au placard. Enfin, disons que c'est très probable. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'il y a eu un post sur Eurogamer cette semaine. Eurogamer qui s'est un peu renseigné sur ce que faisait Eidos Montréal. Eidos Montréal, je rappelle donc, qui est responsable de Mankind Divided et de Human Revolution. Et ils sont un peu renseignés auprès de leur contact pour savoir, bon, qu'est-ce qu'ils foutaient, quoi. Alors, il faut savoir que Eidos Montréal a plusieurs projets sur le feu. Il y a déjà le nouveau Tomb Raider, qui n'a pas été annoncé, mais vous savez, c'est l'histoire du Tomb Raider où un gars avait trouvé un ordinateur portable ouvert dans le métro, et voilà.
Normal.
Et où, du coup, c'est foutu, quoi. C'est niqué. Discrétion zéro. Donc, déjà, il bosse sur ça. Ensuite, il y a le fait que Square Enix a récemment conclu un deal avec Marvel et que plusieurs des studios de Square Enix vont bosser sur des franchises Marvel. Notamment, alors, il y a d'un côté le fait que Crystal Dynamics, donc qui s'occupe de Tomb Raider à la base, bosse sur un jeu Avengers et que apparemment Eidos Montréal serait en soutien sur ce projet. Donc ça fait déjà deux projets, vous voyez, plus un jeu, Les Gardiens de la Galaxie, qui serait actuellement en production chez Eidos Montréal. Donc ça veut dire trois projets. Donc vous voyez qu'en tout cas, alors sans dire que Deus Ex est complètement mort, parce que là ça serait totalement spéculé, on va dire qu'on va pas avoir un nouveau Deus Ex avant très 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 longtemps.
Ouais, et c'est un peu normal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce sont deux, on peut même parler des deux, hein, que ce soit Eidos Montréal ou Crystal Dynamics, ce sont deux studios extrêmement talentueux, mais qui ont subi de gros échecs ces derniers temps commerciaux. Donc il y a Rise of the Tomb Raider et Mankind Divided pour Eidos Montréal. Et du coup, effectivement, même pour parler de l'annonce du projet multijeu avec Marvel, ça va être assez intéressant de voir que Marvel va essayer de rattraper Warner Bros, qui a fait de très bons jeux avec Rocksteady, et effectivement donc élever leur niveau. Donc ça va faire un peu de une meilleure renommée et une entrée de cash, parce que obligatoirement ça va fonctionner si les jeux ont un minimum de qualité et qu'à côté tu estampilles Avengers qu'on aime ou pas, et ont quand même une certaine renommée maintenant auprès du grand public. Donc ça va faire deux studios talentueux qui vont travailler sur des licences extrêmement connues avec des jeux qui seront bons et qui pourront se vendre également, Et ensuite, ils pourront...
J'attends de voir les jeux. Hein.
Bah, oui, on verra. En théorie. Mais voilà, s'ils sont un minimum bons, ils ont même pas besoin d'être excellents, les jeux. Dès que c'est... Parce que après, si t'appliques la licence et que de l'autre côté, t'as des jeux qui ont un minimum de qualité, ça devrait le faire. Donc après, vu le niveau auquel est Marvel actuellement... Ça devrait faire surtout au niveau marketing à côté cross média et bon Disney va pousser derrière donc ça devrait être assez bon et en tout cas faire une entrée de cash pour les deux studios et augmenter leur renommée et peut-être que d'ici allez je sais pas 10 ans on aura un nouveau Deus Ex mais pas avant.
Alors, voilà. Donc, la douane était très gentille. Maintenant, ça va être à mon tour. Square Enix, allez vous faire voir. pourquoi je dis ça? Parce que, bon, il y a des limites à l'indécence quand même. Deus Ex, Mankind Divided, pourquoi il s'est pas vendu? Parce qu'il est sorti dans un état lamentable. Je rappelle quand même que Square Enix, c'est la boîte qui a imposé à son studio de développement de sortir un mode Breach. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le mode Breach, c'est le mode multijoueur de Deus Ex Mankind Divided dont personne n'a rien à foutre. Voilà. Hein. Ils les ont forcés à bosser sur ce truc. Et en plus, cerise sur le gâteau, les dernières semaines de développement, vous savez, normalement, c'est des semaines où on se consacre à l'optimisation du jeu, on bosse, voilà, on essaie de faire en sorte que de corriger tous les problèmes. Au lieu d'être consacrées au debug, comme ça se fait d'habitude, elles ont été consacrées à quoi? À l'implémentation des microtransactions sur le mode Breach à la dernière minute. Donc voilà, pourquoi je dis, Square Enix, allez vous faire foutre. Parce que si ce Deus Ex Mankind Divided ne s'est pas vendu, bah c'est votre faute. Et d'ailleurs, s'il se vend toujours pas, bah c'est votre faute. Parce que quand je vois, par exemple, que là, cette semaine, vous bradez le jeu sur Steam à moins 70%, je crois, et que en plus, derrière... Bon, en tout cas, il est à moins 15€. Voilà. Donc, si vous l'avez acheté il y a 6 mois, merci pour vous. Hein. Et que, en plus, le patch que vous sortez, au lieu de corriger les problèmes de performance qu'il y a encore sur le jeu, c'est pour ce putain de mode Breach dont personne n'a rien à foutre, eh bien, allez vous faire voir. Voilà. C'est compris? C'est clair? Votre jeu, il se vend pas parce que vous faites de la merde. Bon.
Il y a aussi, il y a aussi le fait que Square Enix avait imposé à Eidos Montréal pour la campagne marketing du jeu, une campagne de marketing assez merdique, on va dire, parce qu'il proposait en fait d'offrir différents bonus aux joueurs selon le nombre de précommandes qui seraient atteints. Et là, du coup, les joueurs ont commencé à gueuler. Et du coup, en fait, quand tu vois que Square Enix, déjà, s'est raté sur la communication parce que les gens commençaient à râler par rapport à ça, plus le fait que le jeu sorte mal optimisé, enfin, je veux dire, le jeu, déjà... Techniquement, c'est pas un foudre de guerre, mais quand je vois que par exemple sur PS4, quand j'ai joué dans la ville de Prague, le jeu rame du cul, c'est assez ouf. Alors que je veux dire, Prague dans le jeu, c'est quand même assez à l'ancienne, quoi. Il y a pas 10 000 choses à gérer, surtout que les PNJ, ils restent plantés là comme des piquets. C'est pas GTA non plus.
C'est pas comme si t'avais une IA de ouf qui tournait derrière, voilà. Tu sais, pour gérer les déplacements des PNJ comme dans GTA, tu vois.
Exactement. Et puis même en termes de modélisation des protagonistes, c'est quand même assez sommaire en fait. Quand tu regardes à d'autres jeux où il y a des détails de ouf et tout, là franchement, ça fait un peu cheap. Moi, si tu veux, le jeu, j'ai bien apprécié quand même l'expérience de Deus Ex, mais plus par son approche gameplay, liberté de pouvoir faire ce que je veux, utiliser les pouvoirs que je veux, c'est ça.
Parce que je le rappelle, attention, hein, moi j'ai adoré Deus Ex Mankind Divided. Hein, je le défendrai corps et âme jusqu'à la fin, ce jeu.
C'est un très bon
mais
jeu.
Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de finition, quoi.
Oui, bah moi, c'est clair et net. Moi, le jeu, je l'ai surkiffé. Il y a pas de souci, hein, j'ai bien apprécié l'expérience. Après, il y a quelques défauts un petit peu embêtants, mais bon, en même temps, tu me diras quel jeu n'a pas de défauts. Mais c'est vrai que c'est dommage que la qualité du jeu ne lui rende pas justice en fait. Et c'est dommage que pour ce Deus Ex en fait, malheureusement, il n'a pas atteint les ventes suffisantes. Surtout que à la fin du jeu, sans spoiler, on est un peu laissé comme ça, comme une merde, quoi. C'est-à-dire que déjà le scénario n'est pas ouf, mais en plus de ça, on te dit que ça allait commencer à ce moment-là, hein, à décoller un petit peu.
Disons que tu sens que le jeu a été coupé en deux, quoi. En fait,
il fait vachement introduction à un autre jeu. Et c'est ça qui est dommage, quoi.
Voilà, c'est ça.
T'as l'impression d'avoir joué à une très longue introduction. Et du coup, bah, il te manque, entre guillemets, le plot principal, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu bête, en fait, dans le jeu. J'aurais bien aimé avoir la suite et finir. L'erreur pour moi, en fait, un petit peu aussi par rapport à celui-là, c'est qu'ils ont repris le personnage d'Adam Jensen pour faire un deuxième. Alors que techniquement, en ayant joué au 1, à la fin du 1, tu te dis, normalement, le mec, il devait plus revenir, quoi. Mm. Puis moi, je pense que c'est pas Adam Jensen que les gens aiment dans Deus Ex, c'est l'aspect liberté, quoi.
Et puis moi, je pense que, enfin, ils auraient dû faire un jeu qui suffit à lui-même.
Ouais.
Quitte à réécrire le scénario, je sais pas, parce que là, en fait, tu sens clairement que... Même si moi, j'ai pas eu la frustration que certains ont pu avoir par rapport à la fin, parce que si tu veux, pour moi, Deus Ex, c'est surtout le gameplay. Et en fait, en termes de gameplay, moi, j'avais fait le tour quand je suis arrivé à la fin. C'est surtout ça, le truc, c'est que moi, quand j'ai terminé le jeu, je sentais que s'ils avaient rallongé le truc, il aurait fallu soit complètement retravailler le gameplay pour revoir la progression du jeu, si tu veux. Enfin, en tout cas, il aurait fallu faire quelque chose parce que j'aurais fini par me faire chier, en fait. C'est parce que mon personnage était clairement craqué par rapport à ce qu'il risquait à faire, quoi. Voilà.
Mais je suis un peu dans le même état d'esprit que toi. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à la fin du jeu, j'ai fait, ah, mais c'est la fin. Ah, ok. Et après, j'ai fait, bon, je vais jouer à un autre jeu, tu vois, mais sans plus. Mais c'est vrai que quand tu t'es surpris, quoi, un petit peu sur le moment, tu dis, ah, en fait, c'est la fin. Enfin, ça arrive. Au début, quand tu arrives à la dernière mission et tout ça, t'es content. Et le jeu, il se finit, mais enfin, moi, si tu veux, je suis pas surpris d'être arrivé à la fin du jeu parce que je sentais bien que ça allait finir. Mais, enfin, c'est vraiment la fin, elle arrive de nulle part, en fait. C'est, voilà, c'est la fin du jeu. Enfin, tu sens bien qu'il y a eu un cut dans le jeu. C'est-à-dire que la fin, elle est balancée, ouais, c'est balancée à l'arrache, quoi. Les mecs, ils te mettent une pauvre vidéo qui dure 2 minutes et tu dis, ah, ok. Ah, donc, tous les choix que j'ai fait dans le jeu, c'est pour un journal télévisé, entre guillemets. C'est tout.
D'accord. Bon, cela dit, c'est déjà mieux que la fin du premier où c'était une fin de Mass Effect 3.
Ouais, appuie sur le bouton.
Enfin, bon, j'exagère. Le premier, disons qu'en termes d'histoire, il avait une vraie fin. Mais par contre, la toute fin, la dernière scène, c'était totalement raté.
Bah, c'était appuie sur 3 boutons, et si t'as fait le jeu voilà. Sans te faire opérer ou sans te faire toucher, etc., t'avais un 4e bouton qui s'activait, je crois. Et puis c'est tout, en fait.
Voilà, c'est ça.
Mais moi, ce que j'ai fait, du coup, je suis arrivé à la fin. J'ai sauvegardé, quand j'ai vu ça, les 4 boutons à ma disposition. J'ai regardé les 4 fois, je fais, oh, c'est de la merde. Parce que voilà, enfin, normalement, dans un jeu comme ça, tu t'attends à ce que tes conséquences, sur la fin se soient imposées par les choix que tu as fait. Et pas qu'on te demande, bon, bah, choisis ta fin, entre guillemets.
Ouais, rouge, vert, bleu, quoi.
Voilà, c'est ça. Rouge, vert, bleu.
N'est-ce pas?
Mass Effect 3.
Mais bon. Dans tous les cas, moi, j'espère pour Eidos Montréal que Square Enix ne reproduira pas ce genre de merde à l'avenir. Très clairement, pour moi, c'est Square Enix qui a saboté le jeu.
Ah, mais clairement.
Je dis comme je le pense. Mmh. Le mode bridge, il était dispensable, dirons-nous, pour être poli.
Non, il sert à rien. Je l'ai lancé même pas. Ouais, voilà. J'ai lancé, j'ai vu la cinématique d'intro, j'ai joué 2-3 minutes et j'ai fait bon. Bah, laisse tomber.
On s'en fout de jouer en multijoueur dans Deus Ex. C'est pas le sujet, quoi, tu vois. Deus Ex, c'est une franchise qui est basée sur l'idée que tout est centré autour du joueur, en fait. Qu'est-ce que tu vas foutre un multijoueur là-dedans? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et ça n'apporte rien, en plus. Au lieu de dépenser de l'argent pour ce mode bridge, ils auraient mieux fait de rallonger du pognon pour qu'ils puissent faire un jeu qui se tient d'un seul bout et qui soit correct techniquement, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire en fait que pour le ils auraient dû concentrer leurs efforts vraiment sur l'aspect technique de la chose, parce que après tout ce qui était direction artistique, etc., c'était fini, il y avait tout qui était là, et ils auraient dû vraiment voilà fignoler le jeu et pas mettre 2-3 bouts de ficelle et puis dire bon bah c'est pas grave, parce que aujourd'hui il y a les fameux patchs Day One, puis les patchs après Day One qui arrivent, et je pense que maintenant tu vois les...
Et le pire, c'est que les patchs après Day One, ils ne corrigent toujours pas les problèmes, non?
Ouais, après ça c'est
c'est ça qui est hallucinant. Alors attention, aujourd'hui le jeu tourne de manière à peu près correcte sur PC, sur PS4 je sais pas, mais sur PC il tourne de manière à peu près correcte, mais c'est pas fou non plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait largement de la place pour faire de l'optimisation encore, quoi.
Il me semble que quand je l'ai relancé sur PS4, c'était un petit peu mieux, notamment dans la ville de Prague dont je me plaignais tout à l'heure. J'ai pas refait le jeu une deuxième fois, mais c'est vraiment, enfin pour moi le truc, c'est, tu vois que le jeu il est pas vraiment optimisé. Il manque certaines choses. Il y a des fois il y a des trucs qui sont assez dérangeants pour un jeu comme ça qui a quand même un gros budget. C'est pas grand chose, mais au final, quand tu vois ça dans une production comme ça, tu te dis quand même, c'est un petit peu dommage, ça fait un peu cheap, quoi.
Bah, surtout, que le jeu soit pas un foudre de guerre, tu vois, sur le plan graphisme, etc., je m'en fous. C'est pas le sujet. Moi, le problème, c'est quand, tu vois, t'as des chutes de framerate de psychopathes, et ça m'est arrivé sur mon PC, et je sais qu'il est pas dégueulasse, pourtant, où d'un seul coup, tu vois, sur certaines parties de Prague, le jeu, il frise d'un coup, quoi, tu vois. Et ouais. Tu dis, mais oh, c'est quoi ce bordel, quoi? Et pourtant, je sais que j'ai vérifié mes drivers et tout, qu'ils soient bien à jour, etc. Et je précise, je n'ai jamais eu ce genre de problème sur aucun autre jeu, tu vois.
Ouais, c'est juste que là, c'est... Tu sens vraiment que le jeu, il y avait une date de sortie qui était fixée.
Voilà, il fallait absolument le sortir en août pour pas, tu sais, se taper tous les gros jeux de Noël.
Mmh.
Parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Soit il le sortait en août, soit il le sortait maintenant.
C'est ça. Et encore, même, je pense que tu vois, même aujourd'hui, là, ça serait compliqué, quoi. Avec tous les jeux qui sortent là rien qu'au début d'année, ça serait compliqué de le caser, quoi. Après, tu me diras, il n'y a pas...
Disons que janvier, il y avait moyen, quoi. Enfin, janvier,
oui,
là, il n'y avait pas grand-chose.
Parce que sur son créneau, il était seul et il n'y avait pas les autres blockbusters qui sortaient. Mais là, par exemple, quand je vois déjà Resident Evil 7, il y a Nioh qui va arriver, enfin, il y a Gravity Rush 2 et tout ça. Donc, tu vois, c'est-à-dire que si tu voudrais vraiment le caser, bah, je pense que... Ouais, c'était pas bête de vouloir le caser en mois d'août. Mais tu l'aurais sorti au mois d'août de l'année prochaine, en fait. Peut-être que le jeu, il aurait dû sortir un an après, en fait.
Ou alors, il aurait fallu, encore une fois, jarter le mode breach, arrêter de vouloir... Non, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand tu apprends que les microtransactions, genre... Mais vraiment, dans les toutes dernières semaines du développement, où les mecs sont venus dire « Ah oui, en fait, il faut rajouter des microtransactions. »
Mais le pire, c'est je crois que j'avais vu un post qui parlait du jeu qui avait été coupé en deux. Le jeu avait été coupé en deux pour que justement faire une suite.
Non mais tu le vois de toute façon, enfin le scénario il s'arrête d'un coup comme ça, t'as un énorme truc derrière et on te dit stop c'est fini. Bon, c'est un peu comme Tyranny dont je parlerai prochainement, tu sens que le jeu, on a pris la hachette, tu vois, tac, ça y est, voilà, maintenant ça fait deux jeux.
Voilà c'est ça, et c'est pas fait de manière subtile ou... Pourtant déjà le jeu de base est quand même assez long si tu veux faire toutes les quêtes et tout ça, donc en termes de pognon t'en as pour ton argent. Si tu fais que la trame principale, le jeu est quand même assez court. Mais si tu veux explorer, faire des quêtes secondaires et tout ça.
Oui, il y a des trucs à faire.
Bah, surtout que les quêtes secondaires, en fait, sont mieux que les quêtes principales, en fait, c'est tout.
Oui,
c'est ça, quoi. Enfin, ça épaissit l'univers, parce que si tu t'en contentes vraiment à ce que le jeu te donne en termes de scénario de base et tout ça, bah, c'est pas très intéressant.
Le scénario, très clairement, on peut vous le spoiler, hein, il y a les Illuminati, il faut un complot.
Voilà. Et c'est vrai que, bah, le mode breach, je pense pas qu'en fait, un mode multijoueur est inutile, mais je pense que c'est la manière dont celui-là a été implanté au jeu. Parce que je pense qu'un mode multijoueur, en fait, dans un jeu comme ça, où tu dois pirater, faire du hacking, il pourrait trouver quelque chose de sympa à faire, mais là, franchement, enfin, la manière dont
Ouais, mais
donc,
tu vois, est-ce que c'est pas, même, imaginons qu'il fasse un truc correct, quoi, si tu veux. Est-ce que c'est pas se compliquer la vie inutilement? Parce que, tu sais, ça fait très cahier des charges, je trouve, quoi.
Oui, bah, c'est...
Il faut absolument mettre un mode multi, vite, trouver une bonne idée pour mettre un mode multi, quoi. Est-ce que Deus Ex, ça a besoin d'avoir du multijoueur, quoi?
Ouais, mais enfin, moi, si tu veux, Ouais, vas-y.
Clairement pas, mais moi j'ai pas encore fait Mankind Divided justement, mais du coup oui c'est ça le problème du multi, c'est en mode comme tu l'as dit qu'il y a des charges à la manière de Mass Effect, c'est-à-dire que le multi de Mass Effect est pas dégueulasse, mais il ne sert niveau vente à rien, enfin je veux dire cet argent là tu peux le mettre ailleurs, donc c'est vraiment des trucs un peu inutiles dans des expériences qui sont vraiment centré sur tes choix, sur la narration et sur le joueur, et donc c'est vraiment un effort humain, financier, marketing qui est totalement inutile, que ce soit sur le meilleur exemple, ouais, que je trouve, parce que j'ai trouvé le multi pas dégueulasse, c'est Mass Effect, et effectivement il ne sert à rien, même s'il n'est pas mauvais, quoi.
Voilà. Ouais, c'est exactement ça, mais enfin moi j'ai heureusement que tu vois qu'ils ont fait un truc un peu différent, c'est-à-dire le mode multi où tu dois faire entre guillemets pirater des systèmes et tout ça, alors que enfin s'ils auraient fait un mode multi ou un mode de jeu matchmaking et tout ça où tu dois combattre, alors que tu vois le jeu quand tu joues à Deus Ex c'est pas vraiment fait pour être un FPS, ils auraient fait ça, là ça aurait été encore plus inutile, quoi. Donc si tu veux, je salue l'effort d'avoir voulu faire un truc dans l'univers de Deus Ex, mais c'est vrai que en termes de coûts, parce que c'est pas gratuit de développer un truc comme ça, déjà, il ne sert strictement à rien, en fait, au final.
C'est même pire que ça, c'est pas qu'il ne sert à rien, c'est qu'il impacte négativement l'expérience, au final. Et c'est ça le plus grave. Parce que si, au lieu d'implémenter leur micro-transaction de merde pour le multijoueur, ils avaient débugué le jeu, je peux te dire qu'il serait peut-être déjà vendu un peu plus. Parce que un des problèmes qu'a eu Deus Ex à sa sortie, c'est qu'il s'est fait casser en deux à cause de la technique, tu vois. Et c'est pareil, par exemple, pour un autre jeu, Dishonored. C'est exactement la même chose. Alors bon, Dishonored, je sais pas ce qui s'est passé en développement, tu vois. Mais aujourd'hui, on sait que il faut sortir les jeux dans un état relativement propre, parce que sinon, t'as 3 milliards de jeux en face et que tu te fais bouffer. Et là, on a l'exemple de deux jeux qui représentent un style de jeu en particulier, qui est les jeux, tu vois, où on laisse le choix aux joueurs, qui sont vraiment basés sur le level design, etc. Et ces deux jeux-là, ils sont plantés. Et moi, tu vois, ce qui me désole, c'est de me dire qu'avec l'échec de Deus Ex et l'échec de Dishonored 2, les studios de développement vont se dire, bah écoute, ce style de jeu, ça rapporte pas, c'est pas rentable, donc on n'en fait plus.
Ouais, ils vont placer voilà. Le problème au mauvais endroit, effectivement.
Alors que, en fait, finalement, c'est vrai que c'était des erreurs, entre guillemets, des erreurs assez faciles à éviter, quoi. C'est-à-dire de sortir un jeu optimisé et tout. Et le problème, c'est que, en fait, dans ce genre de cas-là, c'est que c'est les licences, en général, c'est les licences qui payent. Et maintenant, tu vois vraiment que les jeux, ça coûte tellement d'argent qu'ils ont rien à foutre. Ils veulent sortir leur jeu et puis on s'en fout, quoi.
Il faut que ce soit Noël, hein. Il faut que ce soit à telle date.
Voilà.
Bah voilà, bah écoute, voilà le résultat. Bradé sur Steam à moi 70%. 15 balles pour Deus Ex. Merci. Mais merci beaucoup les gens, hein. Merci d'avoir acheté le jeu Day One, ça fait plaisir. Vous êtes tapé tous les bugs, tous les ralentissements, tout. Vous êtes tout tapé, vous avez payé le jeu plein pot. Merci beaucoup. Vous voyez le message que ça renvoie aux gens? Enfin bref, voilà. Je m'énerve comme d'habitude.
Non, mais t'as raison, hein, clairement. T'es vénère, quoi. Tu t'achètes ton truc plein pot, tu bêta-testes pour les mecs, quoi. C'est ridicule. Alors que tu payes 70
euros. Tu vois, moi, on va dire que j'ai suffisamment de recul pour pas en vouloir au studio, mais il y a beaucoup de gens, mais ils voient ça, mais ça les rend fous, quoi. Enfin, ils ont raison. Ils ont payé pour bêta-tester le jeu, quoi.
Là, parce que là, on est en train de taper sur Deus Ex, mais malheureusement, ce n'est pas le seul mauvais élève dans ce cas-là. Maintenant, c'est devenu monnaie courante. Pratiquement tous les gros jeux, bah, c'est du bêta test, en fait, au limite, si tu veux y jouer en Day One. Par exemple.
Surtout sur PC, je veux dire, avec Batman, etc.
Bah, t'inquiète pas que sur console aussi, tu te tapes des...
Oui, mais c'est beaucoup, c'est moins grave, quoi.
À chaque fois que tu lances ton jeu, t'as une nouvelle mise à jour. Putain, les jeux maintenant.
Par exemple, Final Fantasy XV.
Ouais, Final Fantasy XV, mais même pas que lui, tu vois, même par exemple.
Quoique techniquement, il est propre, hein. C'est surtout ce qui manque dans le jeu, en fait, qui pose problème.
Bah, lui, ça, c'est autre chose. Mais par exemple, tu vois, même un gros jeu, par exemple, comme Uncharted 4, d'un moment, tu sais pas pourquoi, tu tapes un téléchargement. Enfin, tous les jeux quasiment que j'ai pu faire sur console, il y a pas un jeu où j'ai jamais eu de téléchargement, quoi. Ah si, il y avait un jeu, c'était The Order. Mais voilà, The Order.
Oh,
putain.
Mais The Order est-il vraiment un jeu? Ça,
c'est une autre question.
Bon, allez, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine.
Ouais.
Tout à fait.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Bye bye.
Et Deus Ex est un bon jeu.
Achetez-le à 15 balles, sale goût.
Ça c'est dit. Moi je vais l'acheter. J'arrive.
Et buvez de l'eau minérale.